Voici le journal présenté par Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Benoît, bonjour à tous. Il s'agit de la pire tragédie en Méditerranée depuis le début de l'année. Selon l'ONU, 110 migrants sont portés disparus depuis hier au large des côtes libyennes. Alors qu'en France, le nombre de jeunes étrangers mineurs isolés a triplé en seulement 2 ans. Le Conseil constitutionnel doit se prononcer aujourd'hui sur les conditions de leur accueil. Précision avec Florence Turm dans un instant.
La situation en Tunisie après la mort hier du président Essebsi. L'élection présidentielle est avancée. Elle aura lieu en septembre prochain.
Oui, nous irons à Tunis rejoindre notre correspondant Michel Picard.
Et puis en France, où sont passés les 179 000 euros versés par l'État aux repreneurs de l'usine Whirlpool d'Amiens.
Alors que la société WN a été depuis placée en redressement judiciaire, les résultats d'un audit concernant l'utilisation des 2,5 millions de subventions publiques a été publié hier. Décryptage à suivre avec Hélène Fromanti. Mais on commence avec cette information tombée cette nuit, la mort de Pierre Péan, grand journaliste d'investigation, même s'il préférait le terme d'enquêteur, auteur de nombreux ouvrages sur les hommes politiques, les médias et sur l'Afrique. Il avait notamment dévoilé en 1994 l'appartenance de François Mitterrand à la droite pétainiste avant son action dans la Résistance.
L'histoire est toujours très compliquée et effectivement, François Mitterrand a d'abord été maréchaliste, à un moment pétainiste, c'est-à-dire un degré au-dessus. Et puis, petit à petit, il a pris un certain nombre de contacts. Et on peut dire que dans l'année 43, il a été à la fois encore maréchaliste et résistant. Et que petit à petit, disons à la fin 43, il n'est plus maréchaliste, il ne devient que résistant. Mais on pouvait être, c'est ça qui est très compliqué à expliquer aujourd'hui, on pouvait être à la fois maréchaliste et résistant.
Pierre Péan, interviewé par Patrice Gélinet le 14 avril 2008 dans 2000 ans d'histoire sur France Inter. Nous reviendrons bien sûr à 8h sur France Culture. C'est la pire tragédie en mer Méditerranée cette année. Selon les mots des Nations Unies, 110 migrants sont portés disparus après un naufrage hier au large des côtes libyennes, au large de la ville de Roms. Alors qu'en France, le sort des jeunes étrangers mineurs est sur la table ce matin du Conseil constitutionnel. Les sages doivent se prononcer aujourd'hui sur une question prioritaire de constitutionnalité. Il s'agit du fichier biométrique qui vise à rassembler notamment leurs empreintes digitales à leur arrivée en France. Une vingtaine d'associations emmenées par l'UNICEF a obtenu du Conseil d'État qu'ils transmettent cette question au Conseil constitutionnel. L'objectif étant d'obtenir l'annulation de ces dispositions. Un dossier sensible, Florence Turm, car dans la mesure où le nombre de ces mineurs isolés a triplé en l'espace de 2 ans en France.
Difficile d'évaluer leur nombre, d'autant que le chiffre de 40 000 livré par l'Assemblée des départements de France reste contesté par les associations. Mais c'est précisément pour faire face à cet afflux de plus en plus important que ce fichier a été créé. La prise en charge des mineurs isolés relève de l'aide sociale à l'enfance, un dispositif souvent saturé par les demandes, avec un coût estimé à 2 milliards d'euros pour les départements. La consultation du fichier permet de vérifier l'identité d'un jeune étranger qui sollicite l'aide de l'État, d'éviter surtout qu'il aille tenter sa chance dans une autre région en cas de refus, des refus principalement motivés par l'évaluation de l'âge. Les jeunes considérés comme majeurs voient leurs données transférées automatiquement dans un autre fichier qui recense les étrangers en situation irrégulière, susceptibles donc d'être expulsés du territoire français. Un fichage dénoncé par les associations comme une atteinte à la présomption de minorité, l'évaluation de l'âge demeure particulièrement complexe et toujours, selon les associations à Paris, la moitié des décisions sur la majorité d'une personne se trouve ensuite infirmée par le juge des enfants. Elle demande donc que ce juge puisse être consulté avant toute décision d'expulsion au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant, érigé comme un principe fondamental des droits de l'homme au niveau européen.
Florence Turm. Nous partons maintenant en Tunisie où un deuil de 7 jours est décrété après la mort du président tunisien Béji Caïd Essebsi hier à l'âge de 92 ans. L'élection présidentielle de novembre a été avancée à septembre et le président du Parlement est devenu président par intérim à Tunis, les présidents de Michel Picard.
Lors de son intronisation à la présidence de la République, Mohamed El Nasser a appelé le peuple tunisien à, je cite, « unir les rangs » puis il a affirmé la continuité des institutions de l'État. Le mois dernier, le grave accident de santé du président Essebsi avait laissé planer la crainte d'une instabilité à la tête de l'État en cas de vacance du pouvoir. Il n'en est rien. Et pour preuve, la date de la présidentielle, initialement prévue en novembre, a d'ores et déjà été fixée au 15 septembre prochain. Dans la Tunisie post-révolutionnaire, la présidentielle était fixée après les législatives, ce qui permettait au peuple d'élire un chef de l'État au vu de la composition du Parlement. l'inversement décidé suite à la mort de Béji Caïd Essebsi pourrait favoriser les nouveaux venus en politique. On s'attend donc à une campagne présidentielle aussi rapide qu'intense, car désormais, ce n'est plus sur le nom d'un parti, mais sur la personnalité d'un candidat que les électeurs pourraient se prononcer. Tout événement social ou sécuritaire pourrait fortement influer sur le prochain locataire de Carthage. D'autant que, juste avant de mourir, le président Essebsi avait refusé de promulguer une modification de la loi électorale pourtant votée par le Parlement. Ce changement visait à exclure les favoris des sondages. Un mania des médias, une mécène investie dans l'associatif et une ancienne cadre du parti de Ben Ali. Les revoir dans la course irritent déjà les grands partis traditionnels qui pourraient faire les frais du scrutin anticipé.
7h06 sur France Culture, la suite du journal de Sophie Delpont. En France, c'est une journée décisive aujourd'hui pour les 160 ex-salariés de Whirlpool.
Le tribunal de commerce d'Amiens doit se prononcer ce matin sur l'avenir de l'entreprise d'électroménager, la société WN, qui avait repris le site placé depuis en redressement judiciaire le mois dernier. Alors qu'hier, le gouvernement a rendu les conclusions d'un audit sur la gestion financière de cette précédente reprise, mettant en lumière quelques zones d'ombre, Hélène Fromanti.
Cet audit a été réalisé par un cabinet privé mandaté la semaine dernière par le ministère de l'Économie et des Finances. Alors que WN se trouve dans une impasse de trésorerie, l'objectif était de déterminer comment le propriétaire actuel, l'industriel picard Nicolas Decailleux, a utilisé l'argent public perçu lors de la reprise de Whirlpool. En mai 2018, l'État avait en effet versé 2 500 000 euros de subventions pour soutenir cette opération de sauvetage. Après un examen plutôt rapide, 3 jours seulement pour éplucher les comptes de WN, les experts ont établi que 98,5% des dépenses avaient été justifiées. Autrement dit, WN a dépensé la quasi-totalité de ses recettes pour des raisons liées à son activité, salaire, investissement, dépenses d'exploitation ou encore trésorerie. Mais Bercy pointe aussi quelques 179 000 euros que les experts n'ont pas eu le temps de justifier et qui posent question. Cet argent, rapporte le ministère, aurait pu servir à des avantages en nature pour les dirigeants, comme des logements, des voitures ou encore une loge au stade de football d'Amiens. Des dirigeants qui auraient par ailleurs maintenu leur niveau de rémunération malgré les grandes difficultés financières de l'entreprise. Si aucun chiffre n'a pour l'heure été communiqué sur les montants de ces salaires, les employés se disent choqués par la méthode. Eux qui sont restés une année à ne quasiment rien produire faute de clients et qui ont touché, disent-ils, en moyenne 8 à 10 mois de salaire sur un an. L'intégralité de l'audit a été transmise hier soir au procureur de la République d'Amiens. Lui pourra éventuellement clarifier certains points et décider des suites à donner à ces informations.
L'alerte canicule sur les 20 départements, l'alerte rouge, vient d'être levée ce matin par Météo France. Après le pic d'hier, on s'intéresse ce matin à la gestion de nos forêts, car c'est un des éléments essentiels pour lutter contre le réchauffement climatique. Et ce matin, l'Office national des forêts, qui représente la gestion de 25% des massifs en France, traverse une crise profonde. Plusieurs rapports ont été publiés ces derniers mois et un rapport rendu public ce matin suggère une transformation qui s'inspire davantage des méthodes du privé. Alors, choix.
La mission interministérielle chargée d'aiguiller le gouvernement dans sa réforme de l'ONF fait d'abord le constat que le modèle économique de l'Office national des forêts n'est pas viable. Pourquoi ? Parce qu'il assoit ses ressources sur la vente de son bois. Or, on n'a jamais autant coupé de bois et gagné aussi peu d'argent. Les cours s'effondrent. Un constat partagé par la plupart des acteurs. Mais pour sortir de l'ornière, les solutions divergent. Là où les syndicats de l'ONF proposent qu'ils soient rémunérés pour services environnementaux, comme d'ailleurs la France est en train de le demander à Bruxelles pour les agriculteurs, les rapporteurs de la mission, eux, imaginent tout autre chose. Philippe Canal, secrétaire général du SNUPFEN, principal syndicat de l'ONF.
Il faudrait qu'à l'avenir, l'ONF se comporte comme une entreprise et non plus comme un service public. Ça se voit à un certain nombre de propositions. Arrêter de recruter des fonctionnaires. C'est la modification du conseil d'administration, où jusqu'à aujourd'hui siégez dans le conseil d'administration et prenez part aux décisions de la Fédération des communes forestières, qui représente 11 000 communes sur les 36 000 de France, la Fédération nationale du bois, qui représente les 400 000 emplois de la filière, siéger également dans le conseil d'administration les associations de protection de l'environnement. Dans la proposition du rapport, il est très clair que ces quatre acteurs, très importants, ne siègent plus au conseil d'administration de l'ONF, qui serait reconfiguré comme un conseil d'administration d'entreprise avec un PDG à sa tête et qui réfléchit son action par rapport à ses intérêts propres. Donc c'est un changement radical de culture.
La vente de bois serait en outre assurée via une filiale. Si ça n'est pas une privatisation, cela y mène tout droit, craint le SNUPFEN, qui s'inquiète également de nouvelles suppressions d'emplois.
Anne Lanchouin pour France Culture. La fraîcheur de retour en France, donc après les records d'hier, 42,6 degrés à Paris, on s'en souvient. Ce matin, 16 à 25 degrés du nord au sud ce matin, avec des orages qui arrivent sur la façade atlantique dès ce matin. 6 départements sont en vigilance orange aux orages. Les fortes pluies devraient s'étendre ensuite sur la majeure partie du pays au cours de la journée. Il reste ce matin 31 départements en alerte orange à la canicule, notamment le Grand Est, la Bourgogne, la Haute-Savoie et Lyon. Les températures moyenne cet après-midi, 20 degrés à Saint-Malo, autour de 30 degrés à Paris, jusqu'à 37 degrés encore à Lyon et à Strasbourg.